Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Cotiné Erin, Koumalo Fatima et Bonzon Pénélope.
Bonjour.
Pour vous parler des fragilités liées aux transformations sociales en France, on va s'intéresser au cas particulier des jeunes touchés par les phénomènes de quartier et à ceux confrontés aux difficultés liées à la ruralité. Ces problèmes auxquels certains jeunes font face au quotidien entraînent parfois une grande précarité chez les étudiants. Un drame qui a touché le pays entier, où Anas, jeune étudiante âgée de 22 ans, s'est immolée le 8 novembre 2019 devant le Crous de Lyon, dans un geste désespéré. Touchée par une très grande précarité et s'ayant vu supprimer ses aides, a montré à quel point avoir 20 ans aujourd'hui, c'est être déprimé et se battre pour la vie.
L'un des milieux où les jeunes font face à ces inégalités sont les banlieues. La banlieue désigne la zone urbanisée située autour de la ville-centre, indépendante de celle-ci, que ce soit pour les emplois, pour les services ou pour les transports. Cela pour comprendre des quartiers pavillonnaires ou des quartiers plus populaires. Un exemple concret est celui de Paris. Si pour beaucoup Paris est la capitale du luxe, la réalité est bien autre lorsqu'on passe de boulevard périphérique. Le département de Saint-Denis, souvent appelé par son numéro 93, est l'un des plus denses, comportant des grands ensembles immobiliers datant des années 60, devenus au fil des années comme des ghettos pour une population se sentant de plus en plus exclue. C'est aussi l'un des quartiers les populaires de la France, où les gens y prêtent beaucoup d'attention de par son influence dans la culture urbaine. On va s'appuyer ici sur Banlieusard, film de Kerin James, qui suit le mode de vie de trois frères et de leur entourage résidant dans le 93. Mais aussi de Swagger, documentaire de Oliver B, inquiétant auprès de hauts enfants et adolescents aux personnalités surprenantes qui grandissent au cœur des cités les plus défavorisées de France et qui, malgré les fragilités et inégalités qui s'offrent, ont des rêves et des ambitions. Dans ces banlieues, les personnes qui vivent ont toutes évoqué un sentiment d'exclusion. Ces gens sont en permanence confrontés à des problèmes de logement, d'emploi et de mobilité. Des inégalités ressenties de manière systématique. De plus, ce sont aussi des inégalités d'éducation qui confrontent ces jeunes à des problèmes les plus aigus. Pour les études, ils l'obligent certaines fois à devoir partir dans les grandes villes à partir de 18 ans. Le taux de déscolarisation diminue avec l'âge. En 2006, 5,53 millions de jeunes de 18 à 24 ans résident en France métropolitaine. Avant l'âge de 16 ans, les moins aidés se déscolarisent ou parfois rentrent dans des réseaux de drogue illégaux. L'exclusion, ça commence par ne pas avoir de travail, ne pas avoir assez au transport. C'est aussi ne pas pouvoir envoyer son CV dans une entreprise sans qu'on prenne en compte le fait qu'on habite dans le 93. Même si depuis 2005, la France a dépensé des milliards d'euros directement et indirectement pour améliorer la vie dans les banlieues, ces fragilités persistent.
Mais c'est également dans les campagnes françaises que se font ces difficultés. Entre précarité et inégalité sociale et scolaire, il était et reste très difficile pour les étudiants de se frayer un chemin vers un épanouissement personnel. Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous nous appuierons d'abord sur une enquête sociale de Benoît Coquart datant de 2019, intitulée « Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin ». Cette étude est une enquête auprès de ruraux de 20 à 40 ans qui vivent dans le Grand Est, connu pour son exode rural, amené par sa désindustrialisation. Benoît Coquart découvre alors le rapport qu'ont ces individus avec les études, le travail et leur entourage. C'est aussi autour de Retour à Reims, de Didier Héribon, que l'on va se concentrer. Une bibliographie et enquête slash réflexion sociale qui évoque la difficulté des jeunes à aller étudier dans les grandes villes, mais aussi des sujets plus généraux, tels que l'opinion publique, la manière de vivre en campagne et en ville, etc. Ce qui ressort le plus dans ces deux écrits est la difficulté pour les jeunes de poursuivre dans les études supérieures. C'est à ce moment-là que les inégalités culturelles entre les jeunes ruraux et citadins se font.
Il faut savoir que dans les campagnes, jusque dans les années 80 et encore aujourd'hui, l'école est arrêtée très tôt, environ 14-16 ans. Ou alors, les filières professionnelles sont davantage choisies. Du fait de la métropolisation, les emplois non ouvriers et moins précaires sont moins nombreux en campagne, ce qui encourage l'exode rural.
Selon l'INSEE, conséquence de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, 96% des jeunes de 15 à 17 ans sont inscrits dans un établissement d'enseignement à plus de 18 km de leur logement. La famille joue un rôle important dans le choix de l'orientation de leur enfant, car elle perpétue une certaine tradition, norme. Par conséquent, ceux qui essaient de se frayer un chemin vers les études supérieures sont contraints à partir dans les grandes villes, où ils sont heurtés non seulement à des problèmes financiers, donc à la précarité, tels que le souci du logement, de l'alimentation, du job étudiant, mais aussi à des inégalités de niveau d'études.
Cet exode rural, certaines fois, fait s'éloigner le jeune adulte de sa famille, car pour s'intégrer en ville et dans son nouveau cercle social, ce qui ne sera pas sans difficulté, il va changer sa manière de parler, mais aussi peut-être ses valeurs et ses manières de penser. En ce qui concerne les femmes, le fossé se creuse entre celles qui partent à la ville, davantage que les hommes, et celles qui, restant à la campagne, font face à une plus grande précarité. En effet, les femmes qui restent sont confrontées à des idées conservatrices et à un paternalisme qui les pousse à moins travailler, sauf en cas d'extrême pauvreté, et donc à dépendre financièrement de leur mari. Il est donc important de dire qu'en France, la réussite sociale passe par les réussites économiques et la situation géographique. Bien que ce soit deux milieux différents, il est très difficile pour les jeunes de campagne et de banlieue de se transformer socialement. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec M. Benoît Coquart, sociologue, qui va nous parler de son expertise dans le cadre de vie des gens à la campagne. Donc bonjour M. Coquart.
Bonjour.
Donc vous êtes sociologue à un institut national de la recherche agronomique, si on ne se trompe pas, et vous travaillez depuis longtemps sur les milieux ruraux, sur les classes populaires, et vous avez publié votre livre qui est une enquête immersive qui a duré 10 ans sur les vies dans les campagnes en déclin.
C'est
ça. Ok, très bien. Donc on va faut poser quelques questions. La première question, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer de ce qui vous a poussé en fait à mener cette enquête et en quoi l'étude de cette part de la population elle est intéressante en quelque sorte, et aussi comment vous vous y êtes pris.
Ok. Alors moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là il y a une dizaine d'années, mais l'intérêt en fait est venu beaucoup plus tôt parce que donc mon sujet de recherche vraiment précis, c'est les jeunes en milieu rural. Donc les jeunes un petit peu plus âgés que vous, ceux qui quittent le lycée, les vingtenaires, les trentenaires. Mm-hmm. Au départ, ce que j'ai pu comprendre, c'est pourquoi il y avait des milieux ruraux qui se développaient beaucoup. Moi, je suis originaire du département de la Haute-Marne, qui est un département qui a perdu quasiment 20% de sa population ces trois dernières décennies. Et donc, c'est plus que pendant, vous avez dû voir ça au programme, pendant les périodes d'exode rural, là où, en gros, les paysans partaient travailler en tant qu'ouvriers dans les grandes villes. Là, en fait, le départ des jeunes provoque une diminution importante de la population. Et on se rend compte que ça, c'est pas pour toutes les campagnes, c'est dans les campagnes où il y a un déclin économique aussi. Et donc voilà, moi j'ai commencé à travailler là-dessus à cause de ça parce que personne, il y avait pas de travaux de recherche dessus.
D'accord.
Ce phénomène-là, ça me paraissait massif et que ça me parlait aussi au niveau autobiographique quasiment parce que moi je viens des milieux sur lesquels je travaille. Et, du coup, questionner les autres, c'est aussi une manière de comprendre ma propre trajectoire. Donc voilà à peu près les causes du début, on va dire, de la recherche et comment je m'y suis pris. En fait, il y avait pas mal d'écrits un peu surplombants, comme on dit, sur les milieux ruraux. C'est-à-dire que on compare souvent la campagne à la ville parce qu'on écrit les théories du monde social depuis la ville. Et la campagne, elle est définie du plus en négatif. C'est-à-dire que ça serait un monde dans les ruraux, ça serait comme les jeunes des villes, avec moins de perspectives d'avenir, moins de culture, moins de tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est les représentations que moi, je voulais dire. Parce qu'elles ne me semblaient pas justifiées. Et du coup, j'ai fait une écrit. À regarder de loin, je suis allé, vous l'avez dit, je crois, dans la présentation, faire une enquête immersive. C'est-à-dire que je suis allé vivre là-bas, voilà, pendant longtemps. Et j'ai essayé de me mêler à la vie des gens, c'est-à-dire que je me suis inscrit, par exemple, je joue au foot, je me suis inscrit dans les clubs de foot des villages sur lesquels j'enquêtais. J'aidais les gens à construire leur maison, à faire des choses et d'autres dans la journée, le soir, on la fait ensemble. Voilà, ça a duré des années et des années, donc il y a des relations d'amitié qui se sont nouées entre ce qu'on appelle les enquêtés, donc, on suit et moi. Et voilà, c'était à peu près ma méthode. Et après, ce qui m'a appris comme méthode un peu plus spécifique, je pourrais vous résumer plus tard pourquoi, mais je me suis beaucoup intéressé à la manière dont les gens devenaient amis entre eux et à essayer de comprendre qui était ami avec qui. Du coup, il y a beaucoup de mes matériaux qui sont basés sur l'immersion. Donc, l'immersion, ça donne des observations, des comptes rendus d'observation et aussi des entretiens. Et j'ai aussi fait ce qu'on appelle de l'analyse. Ouais. Je montre comment sont construits les groupes de potes en fonction de quel déterminant vont constituer ces groupes.
D'accord. Voilà. Okay. Ok, d'accord.
Pas mes réponses, vous voulez que je sois plus long, plus court
Un tout petit peu plus court, ce serait bien, mais après, si vous avez des choses à dire, enfin, on prend. Hein. Du coup, la deuxième question, ce serait quelle est, selon vous, la plus grande difficulté à laquelle font face les ruraux lorsqu'ils veulent migrer à la ville, du coup
Alors, déjà, ceux qui veulent, ceux qui partent, ils sont à un âge, en fait, ils ont généralement envie de partir parce qu'aujourd'hui, il y a une écrasante majorité des jeunes qui passent le bac général. Et même dans les milieux ruraux, Sauf que quand on interroge les jeunes ruraux et leurs familles, pas forcément faire des études longues, enfin en tout cas à niveau social égal, à caractéristiques sociales comparables, ils ont envie de faire des études beaucoup plus courtes que les jeunes urbains. Et du coup, ils vont quand même à la fac, pas parce que c'est leur grande passion de se dire qu'ils vont avoir un master et qu'ils vont devenir étudiants, mais parce que c'est un peu le passage obligé pour concrétiser son parcours scolaire après le bac général. Et ils partent dans des... Si vous voulez, ils sont un peu pris dans le mouvement de ce qu'on appelle la démocratisation scolaire, qui fait que beaucoup de monde va à la fac, y compris les gens qui n'avaient pas des parents qui ont fait d'études, dont les parents n'ont pas fait d'études. Et voilà, ils n'ont pas, on va dire, de gaieté de cœur, mais en tout cas, ils ont aussi une certaine de vouloir partir, simplement, ils veulent rapidement revenir. Et passer la vingtaine, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui ont quitté le milieu rural tentent de revenir, simplement, ils ont eu des diplômes qui les amènent plutôt vers le marché du travail urbain que le marché du travail rural. Donc, il n'y a pas tellement de difficultés à migrer en soi, si vous voulez, parce que c'est collectivement, tout le monde part à la fac au même âge. Donc, c'est plutôt, on est pris dans le jeu, et après, c'est la difficulté de revenir.
D'accord. C'est plus grand. Ok. Mais du coup, ça voudrait dire que ceux qui ont le plus de mal à partir de ces milieux, ce seraient les personnes plus âgées, c'est ça?
Bah, en fait, les gens veulent pas partir. Parce qu'ils aiment bien, ils préfèrent vivre là-bas qu'à la ville. Ils me disent Paris, jamais de la vie, la ville, jamais de la vie. Donc, ils essayent de tout faire pour pas partir, au contraire.
Ok, d'accord.
Du coup, ça pose pas une difficulté parce qu'ils veulent faire leur vie là-bas. Ce qui est difficile, c'est d'y rester. Parce que, en fait, il y a des espaces où, ce que j'appelle les campagnes en déclin, en tout cas, c'est pas toutes les campagnes. Et les campagnes en déclin, elles perdent beaucoup, beaucoup d'emplois. Et notamment des emplois dans l'industrie, enfin, des emplois stables. Et du coup, les jeunes qui restent là-bas, les concessions qu'ils doivent faire, c'est de gagner moins d'argent, d'avoir des moins bons salaires, d'être plus en concurrence, de faire des métiers plus physiques, plus dangereux, et souvent de devoir aller chercher du travail loin de chez eux, parce qu'il y en a de moins en moins, et que leur poids a tendance à se concentrer. Et c'est ce qui fait que, notamment pour les jeunes femmes en milieu rural, elles sont souvent il y a souvent deux fois plus de chômage parmi les jeunes femmes que parmi les jeunes hommes dans les campagnes des cas. En fait, ça tient le travail est de plus en plus loin, de moins en moins bien rémunéré, et du coup, il n'y a pas forcément de perspective professionnelle pour elles, et elles ont tendance à avoir des enfants beaucoup plus tôt que les filles des villes, notamment. Voilà, c'est des modèles, on va dire, d'entrée dans l'âge adulte qui sont différents. Mais vraiment, il n'y a pas cette envie de partir. Enfin, c'est vraiment pas la tendance. Moi, je m'intéresse en sociologue à la tendance générale, c'est pas la tendance générale.
Ok, d'accord. Mais du coup, ça veut dire que les femmes, elles sont beaucoup plus, en quelque sorte, raccrochées à leur milieu rural, en quelque sorte. Elles veulent beaucoup moins se partir que les hommes.
Ah non, ça ne veut pas dire qu'elles veulent moins partir, mais ça veut dire qu'elles en sont, qu'elles subissent davantage les contraintes de ce milieu-là. Parce que, en fait, les emplois qui persistent dans les campagnes en déclin sont surtout dans des filières considérées comme masculines, où on bouge plutôt les hommes. C'est là où il y a les emplois mieux rémunérés. Et les femmes travaillent beaucoup, notamment les jeunes. Et moi, je m'intéresse vraiment aux jeunes. Elles travaillent aussi dans les services à la personne, dans l'aide à domicile, elles sont assistantes maternelles, ou alors dans les métiers de service mieux rémunérés. Ça va être de travailler dans les call centers, ou en tant que caissière dans les magasins. Enfin, voilà, du coup, en fait, cette situation-là de précarité économique, elle va faire qu'elles sont très dépendantes du fait qu'il y a une petite activité qui se maintienne localement, parce que s'il faut encore aller un peu plus loin chercher du travail, elles pourront pas le faire parce que c'est elles qui ont toutes les tâches domestiques à assumer, c'est elles qui doivent élever les enfants souvent seules, etc. Donc elles dépendent plus de ça, elles dépendent aussi beaucoup plus de ce qu'on appelle le retrait de l'État. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de lits d'hôpitaux, de moins en moins de maternités, les écoles, elles sont regroupées dans des intercommunalités qui font que voilà, il y a moins d'écoles dans les villages. Enfin, tout ça, ça va beaucoup contraindre, en fait, les femmes qui vont être celles qui amènent les enfants à l'école. Enfin, voilà, qui vont dépendre de tous ces services-là qui existent de moins en moins. Et en cela, elles sont un peu plus les victimes du déclin économique et social de ces espaces ruraux que ne le sont les hommes. Et par ailleurs, moi, ce que je montre dans mes bouquins, c'est qu'en termes de réputation, de valorisation, pas que économique, mais symbolique, les jeunes, on valorise beaucoup plus les jeunes hommes. Ça, c'est vrai dans toute la société, mais qui occupe les rôles publics, qui on va voir jouer au foot le dimanche, a tendance à être davantage valorisé pour son travail, de quel jeune on dit que c'est des jeunes pas feignants, etc., qui méritent de gagner plus. Ça, c'est avant tout des jeunes hommes. Et en cela, ça, enfin, le, si vous mais les inégalités qu'on voit sur le marché du travail, elles se concrétisent dans des inégalités dans les rapports sociaux entre les gens. Moi, je me suis intéressé au comment les bandes de potes entre eux, elles se forment, comment les gens, ils interagissent, même chez les uns les autres, dans les milieux intimes. Et en fait, on donne beaucoup plus d'importance aux hommes dans ces milieux-là.
D'accord, ok. Une fois que, du coup, ces personnes, elles arrivent dans les grandes villes, est-ce que, comment l'intégration, elle se fait, et est-ce qu'elles arrivent à totalement s'intégrer, ou il y a une part d'elles-mêmes qui reste un peu, on va dire, détachée, en quelque sorte?
Alors, faut dire que ceux qui partent, c'est un tiers d'une génération, donc les deux autres tiers, ils restent, donc ils vont jamais en ville, donc ils n'ont pas de problème d'intégration. Ensuite, parmi ceux qui partent, ce qu'il faut dire, c'est que c'est surtout des jeunes femmes qui sont dans les campagnes en déclin, parce que c'est les jeunes femmes, elles réussissent beaucoup mieux que les jeunes hommes à l'école, dans tous les milieux sociaux, mais c'est encore plus vrai en milieu rural, parce qu'en milieu rural, on a surtout des gens de classe supérieure, des enfants d'ouvriers, des enfants d'employés. Et donc, typiquement, voilà, le frère aîné arrête très tôt l'école, et la sœur qui arrive après va être à l'école et aller en fac. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va, la fac va être un temps un peu de ce qu'on appelle d'apesanteur sociale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop vers quoi ça va mener. Et par contre, derrière, comme je vous le disais, je crois tout à l'heure, elles essayent généralement de revenir là où elles ont un sentiment d'appartenance, là où elles ont le sentiment d'être connues, que ça ait un sens qu'elles fassent leur vie. Donc elles essayent de revenir dans leur campagne. Seulement, elles ne sont plus en fait avec, je sais pas moi, un master de psycho, pas quoi d'autre, ça ne correspond pas du tout au métier qu'elles vont avoir en milieu rural. Donc elles me disaient, je ne vais pas revenir à être plus qu'un quartier. Et du coup, elles vivent en ville. Mais ce que je constate après pas mal d'années du coup d'observation, parce que les gens, je les suis depuis 2010 maintenant, depuis 2010, elles ont tendance à avoir un mode de vie où elles sont jamais complètement, en fait, elles n'ont jamais complètement épousé le style de vie urbain qui est caractéristique des étudiants, quoi. Et même en tant qu'étudiantes, elles avaient des pratiques qui les amenaient plutôt à être amies avec les autres filles de la campagne qui venaient des mêmes coins qu'elles ou qui venaient d'autres campagnes. Et pas de se mêler avec les jeunes filles de la ville. Pourquoi ? Parce que en fait, dans les grandes villes, notamment dans les grandes villes universitaires, ceux qui sont issus des milieux urbains ont tendance plutôt à appartenir à la bourgeoisie, petite et moyenne bourgeoisie. C'est pas que des différences de territoire, d'habitat, ville-campagne, c'est des différences de classe sociale aussi qui se révèlent derrière. Et déjà, à la campagne, ces filles-là, qui sont plutôt d'origine populaire, elles ne traînaient pas avec les filles du médecin, du professeur. Donc, en fait, ça, les écarts sociaux, comme ça, qui déterminent beaucoup les affinités entre les gens, c'est-à-dire que vous aimez les gens qui vous ressemblent en termes de classe sociale, ça se reproduit à la fac.
D'accord, ok. Voilà. Okay. Mais du coup, est-ce que ceux qui, comme vous dites, ceux qui rentrent chez eux, est-ce qu'ils vont se sentir un peu, une partie d'eux qui va être un peu exclue de leur famille, ou alors justement, est-ce que leur famille, elle sera fière d'elle, quelque part ?
Il est pas entendu sur la fin.
Ah oui, désolé. Oui, du coup, je demandais si, en fait, celles qui, les personnes qui revenaient de la ville, est-ce qu'elles se sentaient exclues par leur famille, ou est-ce que leur famille était fière d'elles, ou...
Ouais, c'est vraiment une question vachement importante que vous posez là. En fait, la problématique que vivent celles qui partent, celles et ceux qui partent, c'est qu'ils me disent toujours, quand tu pars, on te zappe. C'est-à-dire que les gens continuent de faire leur vie au village, notamment les potes d'avant qui, eux, continuent de traîner, se connaissent tous, tout le monde, comme on dit, tout le monde se connaît. Il y a ce qu'on appelle une sociabilité, c'est-à-dire les relations entre les gens sont très, très intenses, très nombreuses, et du coup, ils n'ont pas du tout l'impression, ils ne s'intéressent pas en fait à ceux qui sont partis. Et notamment quand ça renvoie à un parcours d'étudiant, parce que pour eux, ils considèrent que ça mène à pas grand-chose, ils ne savent pas trop vers quel métier on se destine, ils ne connaissent pas les villes dans lesquelles on va travailler, donc il y a une coupure intragénérationnelle qui se fait entre ceux qui partent et ceux qui restent, et celles qui sont parties, elles ont vraiment un peu de rancune du fait de se dire que les personnes prennent des nouvelles d'elles. Il y avait des scènes que je raconte un peu, je crois, dans mon bouquin. Quand les étudiants obtiennent leur diplôme, ils viennent le fêter, ils veulent le fêter au village, mais ceux qui sont restés au village voient pas l'intérêt de ce diplôme. Donc il y a une fête qui est donnée en théorie en l'honneur des diplômés, puis en fait, ils n'ont pas de cadeaux, personne ne les félicite, les gens viennent à la fête faire la fête, mais voilà, c'est pas, on ne comprend pas que ça soit un accomplissement, quoi. Donc pour les étudiants, c'est super important de fêter ça et de fêter ça dans leur milieu.
D'accord, ok. Bah, vraiment, on a fini. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, c'est très aimable à vous, et de vous avoir accordé votre temps. Oui.
marche. Mais bon courage pour votre dossier, là, votre travail.
Oui, ben merci beaucoup.
Merci. Pour le bac. Au revoir.
Au revoir. Vas-y, éteins.
Éteins.